Maurice Leblanc, 813. Première partie, la double vie d'Arsène Lupin. Chapitre 1, le massacre. Monsieur Kesselbach s'arrêta net au seuil du salon, prit le bras de son secrétaire et murmura d'une voix inquiète. Chapman, on a encore pénétré ici. Voyons, voyons, monsieur, protesta le secrétaire. Vous venez vous-même d'ouvrir la porte de l'antichambre et pendant que nous déjeunions au restaurant, la clé n'a pas quitté votre poche. Chapman, on a encore pénétré ici, répéta monsieur Kesselbach. Il montra un sac de voyage qui se trouvait sur la cheminée. « Tenez, la preuve est faite. Ce sac était fermé, il ne l'est plus. » Chapman objecta. « Êtes-vous bien sûr de l'avoir fermé, monsieur? D'ailleurs, ce sac ne contient que des bibelots sans valeur, des objets de toilette. »«
Il ne contient que cela parce que j'en ai retiré mon portefeuille avant de sortir, par précaution, sans quoi... »
« Non, je vous le dis, Chapman, on a pénétré ici pendant que nous déjeunions. »
Au mur, il y avait un appareil téléphonique. Il décrocha le récepteur.
« Allô, c'est pour Monsieur Kesselbach, appartement 415. »«
C'est ça, mademoiselle. Veuillez demander la préfecture de police, service de la sûreté. »«
Vous n'avez pas besoin du numéro, n'est-ce pas ?»«
Bien, merci, j'attends à l'appareil. »
Une minute après, il reprenait.
« Allô ? Allô ? Je voudrais dire quelques mots à M. Lenormand, le chef de la sûreté. C'est de la part de M. Kesselbach. Allô ?
Mais oui, M. le chef de la sûreté sait de quoi il s'agit. C'est avec son autorisation que je téléphone.
Ah, il n'est pas là.
À qui ai-je l'honneur de parler ?
M. Gourel, inspecteur de police. »
« Mais il me semble, Monsieur Gourel, que vous assistiez hier à mon entrevue avec Monsieur Lenormand. »«
Eh bien, monsieur, le même fait s'est reproduit aujourd'hui. On a pénétré dans l'appartement que j'occupe. »«
Et si vous veniez dès maintenant, vous pourriez peut-être découvrir, d'après les indices... »«
D'ici une heure ou deux. » »«
Parfaitement. »
Vous n'aurez qu'à vous faire indiquer l'appartement 415.
Encore une fois, merci.
De passage à Paris, Rudolf Kesselbach, le roi du diamant, comme on l'appelait, ou selon son autre surnom, le maître du cap, le multimillionnaire Rudolf Kesselbach, on estimait sa fortune à plus de 100 millions, occupé depuis une semaine au quatrième étage du Palace Hotel, l'appartement 415, composé de trois pièces, dont les deux plus grandes à droite, le salon et la chambre principale, avaient vue sur l'avenue, et dont l'autre, à gauche, qui servait au secrétaire Chapman, prenait jour sur la rue de Judée. À la suite de cette chambre, cinq pièces étaient retenues pour Madame Kesselbach, qui devait quitter Monte-Carlo, où elle se trouvait actuellement, et rejoindre son mari au premier signal de celui-ci. Durant quelques minutes, Rudolf Kesselbach se promena d'un air soucieux. C'était un homme de haute taille, coloré de visage, jeune encore, auquel des yeux rêveurs, dont on apercevait le bleu tendre à travers des lunettes d'or, donnaient une expression de douceur et de timidité qui contrastait avec l'énergie du front carré et de la mâchoire osseuse. Il alla vers la fenêtre, elle était fermée. Du reste, comment aurait-on pu s'introduire par là? Le balcon particulier qui entourait l'appartement s'interrompait à droite, et à gauche il était séparé par un refend de pierre des balcons de la rue de Judée. Il passa dans sa chambre. Elle n'avait aucune communication avec les pièces voisines. Il passa dans la chambre de son secrétaire. La porte qui s'ouvrait sur les cinq pièces réservées à Madame Kesselbach était close et le verrou poussé.
« Je n'y comprends rien, Chapman. Voilà plusieurs fois que je constate ici des choses étranges, vous l'avouerez. Hier, c'était ma canne qu'on a dérangée. Avant-hier, on a certainement touché à mes papiers. Et cependant, comment cela serait-il possible ?»«
C'est impossible, monsieur, » s'écria Chapman, dont la placide figure d'honnête homme ne s'animait d'aucune inquiétude.
« Vous supposez, voilà tout. Vous n'avez aucune preuve, rien que des impressions. Et puis quoi, on ne peut pénétrer dans cet appartement que par l'antichambre. Or, vous avez fait faire une clé spéciale le jour de votre arrivée. Il n'y a que votre domestique, Edwards, qui en possède le double. Vous avez confiance en lui.
Parbleu, depuis 10 ans qu'il est à mon service. » « Mais Edwards déjeune en même temps que nous, et c'est un tort. À l'avenir, il ne devra descendre qu'après notre retour. »
Chapman haussa légèrement les épaules. Décidément, le maître du cap devenait quelque peu bizarre, avec ses craintes inexpliquées. « Quel risque court-on dans un hôtel, alors surtout qu'on ne garde sur soi ou près de soi aucune valeur, aucune somme d'argent importante. » Ils entendirent la porte du vestibule qui s'ouvrait. C'était Edwards. Monsieur Kesselbach l'appela. « Vous êtes en livrée, Edwards ? Ah bien, je n'attends pas de visite aujourd'hui, Edwards. Ou plutôt si une visite, celle de Monsieur Gourel. D'ici là, restez dans le vestibule et surveillez la porte. Nous avons à travailler sérieusement, M. Chapman et moi. » Le travail sérieux dura quelques instants, pendant lesquels M. Kesselbach examina son courrier, parcourut 3 ou 4 lettres et indiqua les réponses qu'il fallait faire. Mais soudain, Chapman, qui attendait la plume levée, s'aperçut que M. Kesselbach pensait à autre chose qu'à son courrier. Il tenait entre ses doigts et regardait attentivement une épingle noire recourbée en forme d'hameçon. « Chapman, fit-il, voyez ce que j'ai trouvé sur la table. Il est évident que cela signifie quelque chose, cette épingle recourbée. Voilà une preuve, une pièce à conviction. Et vous ne pouvez plus prétendre qu'on n'ait pas pénétré dans ce salon. » Car enfin, cette épingle n'est pas venue là toute seule.
Certes non, répondit le secrétaire, elle y est venue grâce à moi.
Comment ?
Oui, c'est une épingle qui fixait ma cravate à mon col. Je l'ai retirée hier soir, tandis que vous lisiez, et je l'ai tordue machinalement. Monsieur Kesselbach se leva, très vexé, fit quelques pas, et s'arrêtant, vous riez sans doute, Chapman, et vous avez raison. Je ne le conteste pas, je suis plutôt excentrique depuis mon dernier voyage au Cap. C'est que voilà, vous ne savez pas ce qu'il y a de nouveau dans ma vie. Un projet formidable, une chose énorme que je ne vois encore que dans les brouillards de l'avenir, mais qui se dessine pourtant et qui sera colossale. « Ah, Chapman, vous ne pouvez pas imaginer. L'argent, je m'en moque, j'en ai trop. Mais cela, c'est davantage, c'est la puissance, la force, l'autorité. Si la réalité est conforme à ce que je pressens, je ne serai plus seulement le maître du Cap, mais le maître aussi d'autres royaumes. » Rudolf Kesselbach, le fils du chaudronnier d'Augsbourg, marchera de pair avec bien des gens qui jusqu'ici le traitaient de haut. Il aura même le pas sur eux, Chapman. Il aura le pas sur eux, soyez-en certains, et si jamais... » Il s'interrompit, regarda Chapman comme s'il regrettait d'en avoir trop dit, et cependant, entraîné par son élan, il conclut. « Vous comprenez, Chapman, les raisons de mon inquiétude.
Il y a là, dans le cerveau, une idée qui vaut cher, et cette idée, on la soupçonne peut-être et l'on m'épie. J'en ai la conviction. »
Une sonnerie retentit. « Le téléphone, » dit Chapman.
« Est-ce que, par hasard, » murmura M. Kesselbach, « ce serait... »
Il prit l'appareil.
« Allô ? De la part de qui ?
Le colonel ?
Ah, eh bien, oui, c'est moi. Il y a du nouveau ?
Parfait, alors je vous attends.
Vous viendrez avec vos hommes.
Parfait.
Allô ?
Non, non, nous ne serons pas dérangés, je vais donner les ordres nécessaires.
C'est donc si grave ?
Je vous répète que la consigne sera formelle. Mon secrétaire et mon domestique garderont la porte et personne n'entrera.
Vous connaissez le chemin, n'est-ce pas ?
Par conséquent, ne perdez pas une minute.
Il raccrocha le récepteur et aussitôt.
Chapman, deux messieurs vont venir. Oui, deux messieurs. Edwards les introduira.
Mais M. Gourel, le brigadier,
il arrivera plus tard, dans une heure. Et puis quand même, ils peuvent se rencontrer.
Donc, dites à Edwards d'aller dès maintenant au bureau et de prévenir. Je n'y suis pour personne, sauf pour deux messieurs, le colonel et son ami, et pour M. Gourel, qu'on inscrive les noms.
Chapman exécuta l'ordre. Quand il revint, il trouva M. Kesselbach qui tenait à la main une enveloppe, ou plutôt une petite pochette, de maroquin noir, vide sans doute, à en juger par l'apparence. Il semblait hésiter, comme s'il ne savait qu'en faire. Allait-il la mettre dans sa poche ou la déposer ailleurs? Enfin, il s'approcha de la cheminée et jeta l'enveloppe de cuir dans son sac de voyage.
« Finissons le courrier, Chapman. Nous avons 10 minutes. »«
Ah, une lettre de Madame Kesselbach. »«
Comment se fait-il que vous ne me l'ayez pas signalé, Chapman ? Vous n'aviez donc pas reconnu l'écriture ?»
Il ne cachait pas l'émotion qu'il éprouvait à toucher et à contempler cette feuille de papier que sa femme avait tenue entre ses doigts et où elle avait mis un peu de sa pensée secrète. Il en respira le parfum et, l'ayant décacheté, lentement, il la lut à mi-voix, par bribes que Chapman entendait.
Un peu lasse, je ne quitte pas la chambre, je m'ennuie, quand pourrais-je vous rejoindre ? Votre télégramme sera le bienvenu.
Vous avez télégraphié ce matin, Chapman ? Ainsi donc, Madame Kesselbach sera ici demain, mercredi.
Il paraissait tout joyeux, comme si le poids de ses affaires se trouvait subitement allégé et qu'il fût délivré de toute inquiétude. Il se frotta les mains et respira largement, en homme fort, certain de réussir, en homme heureux, qui possédait le bonheur et qui était de taille à se défendre.
« On sonne, Chapman, on a sonné au vestibule, allez voir. »
Mais Edwards entra et dit « Deux messieurs, demande monsieur, ce sont les personnes, je sais. Elles sont là dans l'antichambre ?
Oui, monsieur. »
« Refermez la porte de l'antichambre et n'ouvrez plus, sauf à monsieur Gourel, brigadier de la sûreté. Vous, Chapman, allez chercher ces messieurs. » Et dites-leur que je voudrais d'abord parler au colonel seul. »
Edwards et Chapman sortirent en ramenant sur eux la porte du salon.
Rudolf Kesselbach se dirigea vers la fenêtre et appuya son front contre la vitre. Dehors, tout au-dessous de lui, les voitures et les automobiles roulaient dans les sillons parallèles que marquait la double ligne de refuge. Un clair soleil de printemps faisait étinceler les cuivres et les vernis. Aux arbres, un peu de verdure s'épanouissait,
et les bourgeons des marronniers commençaient à déplier leurs petites feuilles naissantes.
« Que diable fait Chapman ?» murmura Kesselbach. « Depuis le temps qu'il parlemente. »
Il prit une cigarette sur la table, puis, l'ayant allumée, il tira quelques bouffées. Un léger cri lui échappa. Près de lui, debout, se tenait un homme qu'il ne connaissait pas. Il recula d'un pas.
« Qui êtes-vous ?»
L'homme, c'était un individu correctement habillé, plutôt élégant, noir de cheveux et de moustaches, les yeux durs. L'homme ricana « Qui je suis ? Mais le colonel ?»«
Mais non, celui que j'appelle ainsi, celui qui m'écrit sous cette signature de convention, ce n'est pas vous. »«
Si, si, l'autre n'était que... » »« Voyez-vous, mon cher monsieur, tout cela n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que moi, je sois moi, et je vous jure que je le suis. »
« Mais enfin, monsieur, votre nom ?»«
Le colonel, jusqu'à nouvel ordre. » Une peur croissante envahissait M. Kesselbach. Qui était cet homme ? Que lui voulait-il ? Il appela « Chapman !»«
Quelle drôle d'idée d'appeler ! Ma société ne vous suffit pas ?»«
Chapman ! Chapman ! Edwards !»
« Chapman, Edwards, dit à son tour l'inconnu. « Que faites-vous donc, mes amis ? On vous réclame. »«
Monsieur, je vous prie, je vous ordonne de me laisser passer. »«
Mais, mon cher monsieur, qui vous en empêche ?»
Il s'effaça poliment. Monsieur Kesselbach s'avança vers la porte, l'ouvrit et brusquement sauta en arrière. Devant cette porte, il y avait un autre homme, le pistolet au poing. Il balbutia.
« Edward Chapman !»
Il n'acheva pas. Il avait aperçu dans un coin de l'antichambre, étendus l'un près de l'autre, bâillonnés et ficelés, son secrétaire et son domestique. Monsieur Kesselbach, malgré sa nature inquiète, impressionnable, était brave. Et le sentiment d'un danger précis, au lieu de l'abattre, lui rendait tout son ressort et toute son énergie. Doucement, tout en simulant l'effroi, la stupeur, il recula vers la cheminée et s'appuya contre le mur. Son doigt cherchait la sonnerie électrique. Il trouva et pressa le bouton longuement.
« Et après ?» fit l'inconnu.
Sans répondre, M. Kesselbach continua d'appuyer.
« Et après, vous espérez qu'on va venir ? Que tout l'hôtel est en rumeur parce que vous pressez ce bouton ? Mais, mon pauvre monsieur, retournez-vous donc, et vous verrez que le fil est coupé. »
M. Kesselbach se retourna vivement, comme s'il voulait se rendre compte, mais d'un geste rapide, il s'empara du sac de voyage, plongea la main, saisit un revolver, le braqua sur l'homme et tira.
« Bigre, fit celui-ci, vous chargez donc vos armes avec de l'air et du silence ?»
Une seconde fois, le chien claqua, puis une troisième. Aucune détonation ne se produisit.
« Encore trois coups, roi du Cap. Je ne serai content que quand j'aurai 6 balles dans la peau. Comment, vous y renoncez ? Oh, dommage, le carton s'annonçait bien. »
Il agrippa une chaise par le dossier, la fit tournoyer, s'assit à califourchon et, montrant un fauteuil à M. Kesselbach, « Prenez donc la peine de vous asseoir, cher monsieur, et faites ici comme chez vous.
Une cigarette ?
Pour moi, non, je préfère les cigares. » Il y avait une boîte sur la table, il choisit un Upman blond et bien façonné, l'alluma et s'inclinant, « Je vous remercie. Ce cigare est délicieux. Et maintenant, causons, voulez-vous ?»
Rudolf Kesselbach écoutait avec stupéfaction.
Quel était cet étrange personnage ? à le voir si paisible cependant et si loquace. Il se rassurait peu à peu et commençait à croire que la situation pourrait se dénouer sans violence ni brutalité. Il tira de sa poche un portefeuille, le déplia, exhiba un paquet respectable de banknotes et demanda « Combien ?» L'autre le regarda d'un air ahuri, comme s'il avait de la peine à comprendre. Puis, au bout d'un instant, appela « Marco !» L'homme au revolver s'avança. « Marco, monsieur a la gentillesse de t'offrir ces quelques chiffons. Pour ta bonne amie, accepte, Marco. » Tout en braquant son revolver de la main droite, Marco tendit la main gauche, reçut les billets et se retira. « Cette question, réglée selon votre désir, reprit l'inconnu, venons-en au but de ma visite. Je serai bref et précis. Je veux deux choses. D'abord, une petite enveloppe en maroquin noir que vous portez généralement sur vous. Ensuite, une cassette d'ébène qui, hier encore, se trouvait dans le sac de voyage. Procédons par ordre, l'enveloppe de maroquin brûlée. » L'inconnu fronça le sourcil. Il dut avoir la vision des bonnes époques où il y avait des moyens péremptoires de faire parler ceux qui s'y refusent. « Soit, nous verrons ça. Et la cassette d'ébène ?»« Brûlée. »« Ah » gronda-t-il, « vous vous payez ma tête, mon brave homme. » Et il lui tordit le bras d'une façon implacable. « Hier, Rudolf Kesselbach, hier vous êtes entré au Crédit Lyonnais, sur le boulevard des Italiens, en dissimulant un paquet sous votre pardessus. Vous avez loué un coffre-fort. Précisons, le coffre numéro 16, travé 9. Après avoir signé et payé, vous êtes descendu dans les sous-sols et quand vous êtes remonté, vous n'aviez plus votre paquet. Est-ce exact ? Absolument. Donc, la cassette et l'enveloppe sont au Crédit Lyonnais. Non. Donnez-moi la clé de votre coffre. Non. Marco. Marco accourut. Vas-y, Marco, le quadruple nœud. Avant même qu'il eût le temps de se mettre sur la défensive, Rudolf Kesselbach fut enserré dans un jeu de cordes qui lui meurtrirent les chairs dès qu'il voulut se débattre. Ses bras furent immobilisés derrière son dos, son buste attaché au fauteuil et ses jambes entourées de bandelettes comme les jambes d'une momie. « Fouille, Marco !» Marco fouilla. Deux minutes après, il remettait à son chef une petite clé plate, nickelée, qui portait les numéros 16 et 9. « Parfait. Pas d'enveloppe de maroquin ?»« Non, patron. Elle est dans le coffre. »« Monsieur Kesselbach, veuillez me dire le chiffre secret. »« Non. »« Vous refusez ?»« Oui. »« Marco, patron, applique le canon de ton revolver sur la tempe de monsieur. »« Ça y est. » Appuie ton doigt sur la détente. Voilà. Eh bien, mon vieux Kesselbach, es-tu décidé à parler? Non. Tu as 10 secondes, pas une de plus. Marco, patron, dans 10 secondes, tu feras sauter la cervelle de monsieur. Entendu. Kesselbach, je compte. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Rudolf Kesselbach fit un signe. Tu veux parler? Oui. Il était temps. Alors, le chiffre, le mot de la serrure. Dolor. Dolor, douleur.
Oh, Madame Kesselbach ne s'appelle-t-elle pas Dolores ?
Chérie, va.
Marco, tu vas faire ce qui est convenu. Pas d'erreur, hein, je répète. Tu vas rejoindre Jérôme au bureau où tu sais. Tu lui remettras la clé et tu lui diras le mot d'ordre « Dolor ». Vous irez ensemble au Crédit Lyonnais. Jérôme entrera seul, signera le registre d'identité, descendra dans les caves et emportera tout ce qui se trouve dans le coffre-fort. Compris ?
Oui, patron, mais si par hasard le coffre n'ouvre pas, si le mot Dolor...
Silence, Marco. Au sortir du Crédit Lyonnais, tu lâcheras Jérôme, tu rentreras chez toi et tu me téléphoneras le résultat de l'opération. Si par hasard le mot Dolor n'ouvre pas le coffre, nous aurons, mon ami Kesselbach et moi, un petit entretien suprême.
Kesselbach, tu es sûr de ne t'être point trompé ?
Oui.
C'est qu'alors tu escomptes la nullité de la perquisition. Nous verrons ça.
File, Marco.
Mais vous, patron ?
Moi, je reste.
Oh, ne crains rien. Je n'ai jamais couru aussi peu de danger.
N'est-ce pas, Kesselbach ? La consigne est formelle.
Oui.
Diable, tu me dis ça d'un air bien empressé. Est-ce que tu aurais cherché à gagner du temps ? Alors je serais pris au piège comme un idiot ?
Il réfléchit, regarda son prisonnier et conclut.
Non, ce n'est pas possible. Nous ne serons pas dérangés.
Il n'avait pas achevé ce mot que la sonnerie du vestibule retentit. Violemment, il appliqua sa main sur la bouche de Rudolf Kesselbach.
Ah, vieux renard, tu attendais quelqu'un.
Les yeux du captif brillaient d'espoir. On l'entendit ricaner sous la main qu'il étouffait. L'homme tressaillit de rage.
Tais-toi, sinon je t'étrangle.
Tiens, Marco, bâillonne-le, fais vite, bien. On sonna de nouveau. Il cria, comme s'il était, lui, Rudolf Kesselbach, et qu'Edwards fût encore là.
« Ouvrez donc, Edwards !»
Puis il passa doucement dans le vestibule et, à voix basse, désignant le secrétaire et le domestique,
« Marco, aide-moi à pousser ça dans la chambre, là, de manière qu'on ne puisse les voir. »
Il enleva le secrétaire, Marco emporta le domestique.
« Bien, maintenant retourne au salon. »
Il le suivit et, aussitôt, repassant une seconde fois dans le vestibule, il prononça très haut d'un air étonné.
Mais votre domestique n'est pas là, monsieur Kesselbach ?
Non, non, ne vous dérangez pas, finissez votre lettre. J'y vais moi-même.
Et tranquillement, il ouvrit la porte d'entrée.
Monsieur Kesselbach ? Lui demanda-t-on. Il se trouvait en face d'une sorte de colosse, à la large figure réjouie, aux yeux vifs, qui se dandinait d'une jambe sur l'autre et tortillait entre ses mains les rebords de son chapeau. Il répondit «
Parfaitement, c'est ici. Qui dois-je annoncer ?»«
Monsieur Kesselbach a téléphoné, il m'attend. »«
Ah, c'est vous, je vais prévenir. Voulez-vous patienter une minute ? Monsieur Kesselbach va vous parler. »
Il eut l'audace de laisser le visiteur sur le seuil de l'antichambre, à un endroit d'où l'on pouvait apercevoir, par la porte ouverte, une partie du salon. Et lentement, sans même se retourner, il rentra, rejoignit son complice auprès de M. Kesselbach et lui dit
« Nous sommes fichus, c'est Gourel de la Sûreté. »
L'autre empoigna son couteau. Il lui saisit le bras. « Pas de bêtises, hein, j'ai une idée. Mais pour Dieu, comprends-moi bien, Marco, et parle à ton tour. » Parle comme si tu étais Kesselbach. Tu entends, Marco ? Tu es Kesselbach. Il s'exprimait avec un tel sang-froid et une autorité si violente que Marco comprit sans plus d'explication qu'il devait jouer le rôle de Kesselbach et prononça de façon à être entendu.
Vous m'excuserez, mon cher, dites à M. Gourel que je suis désolé, mais que j'ai affaire par-dessus la tête. je le recevrai demain matin à 9 heures. Oui, à 9 heures exactement.
Bien, souffla l'autre, ne bouge plus. Il revint dans l'antichambre. Gourel attendait. Il lui dit,
Monsieur Kesselbach s'excuse, il achève un travail important. Vous est-il possible de venir demain matin à 9 heures?
Il y eut un silence. Gourel semblait surpris et vaguement inquiet. Au fond de sa poche, le poing de l'homme se crispa. Un geste équivoque et il frappait. Enfin, Gourel dit
« Soit, à demain 9 heures, mais tout de même...
Eh bien oui, 9 heures, je serai là. » Et remettant son chapeau, il s'éloigna par les couloirs de l'hôtel. Marco, dans le salon, éclata de rire.
« Rudement fort, le patron. À ce que vous l'avez roulé. »«
Débrouille-toi, Marco, tu vas le filer. S'il sort de l'hôtel, lâche-le, retrouve Jérôme comme c'est convenu et téléphone. » Marco s'en alla rapidement. Alors l'homme saisit une carafe sur la cheminée, se versa un grand verre d'eau qu'il avala d'un trait, mouilla son mouchoir, baigna son front que la sueur couvrait, puis s'assit auprès de son prisonnier et lui dit avec une affectation de politesse.
« Il faut pourtant bien, monsieur Kesselbach, que j'ai l'honneur de me présenter à vous. »
Et tirant une carte de sa poche, il prononça. « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. » Le nom du célèbre aventurier sembla faire sur M. Kesselbach la meilleure impression. Lupin ne manqua pas de le remarquer et s'écria.
« Ah, ah, cher monsieur, vous respirez. Arsène Lupin est un cambrioleur délicat. Le sang lui répugne. Il n'a jamais commis d'autre crime que de s'approprier le bien d'autrui. Une peccadille, quoi. »
Et vous vous dites qu'il ne va pas se charger la conscience d'un assassinat inutile. D'accord. Mais votre suppression sera-t-elle inutile? Tout est là. En ce moment, je vous jure que je ne rigole pas.
Allons-y, camarade.
Il rapprocha sa chaise du fauteuil, relâcha le bâillon de son prisonnier et nettement.
« Monsieur Kesselbach, le jour même de ton arrivée à Paris, tu entrais en relation avec le nommé Barbareux, directeur d'une agence de renseignement confidentiel. Et comme tu agissais à l'insu de ton secrétaire Chapman, le sieur Barbareux, quand il communiquait avec toi, par lettre ou par téléphone, s'appelait le colonel. » Je me hâte de dire que Barbareux est le plus honnête homme du monde. Mais j'ai la chance de compter un de ses employés parmi mes meilleurs amis. C'est ainsi que j'ai su le motif de ta démarche auprès de Barbareux et c'est ainsi que j'ai été amené à m'occuper de toi et à te rendre, grâce à de fausses clés, quelques visites domiciliaires au cours desquelles, hélas, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. » Il baissa la voix et, les yeux dans les yeux de son prisonnier, scrutant son regard, cherchant sa pensée obscure, il articula. « Monsieur Kesselbach, tu as chargé Barbareux de découvrir dans les bas-fonds de Paris un homme qui porte ou a porté le nom de Pierre Leduc. » Et dont voici le signalement sommaire. Taille 1,75 m, blond, moustache. Signe particulier, à la suite d'une blessure, l'extrémité du petit doigt de la main gauche a été coupée. En outre, une cicatrice presque effacée à la joue droite. tu sembles attacher à la découverte de cet homme une importance énorme, comme s'il en pouvait résulter pour toi des avantages considérables. Qui est cet homme ?
Je ne sais pas.
La réponse fut catégorique, absolue. Savait-il ou ne savait-il pas ?
Peu importait. L'essentiel, c'est qu'il était décidé à ne point parler.
Soit, fit son adversaire, mais tu as sur lui des renseignements plus détaillés que ceux que tu as fournis à Barbareux.
Aucun.
Tu mens, monsieur Kesselbach. Deux fois devant Barbareux, tu as consulté des papiers enfermés dans l'enveloppe de Maroquin.
En effet.
Alors cette enveloppe ?
Brûlée ?
Lupin tressaillit de rage. Évidemment, l'idée de la torture et des commodités qu'elle offrait traversa de nouveau son cerveau.
Brûlée ?
Mais la cassette ? Avoue donc ! Avoue donc qu'elle est au Crédit Lyonnais !
Oui.
Et qu'est-ce qu'elle contient ?
Les 200 plus beaux diamants de ma collection particulière.
Cette affirmation ne sembla pas déplaire à l'aventurier.
Ah ah, les 200 plus beaux diamants ! Mais dis donc, c'est une fortune !
Oui, ça te fait sourire. Pour toi, c'est une bagatelle. Et ton secret vaut mieux que ça.
Pour toi, oui, mais pour moi ?
Il prit un cigare, alluma une allumette qu'il laissa éteindre machinalement, et resta quelque temps pensif, immobile. Les minutes passaient. Il se mit à rire.
« Tu espères bien que l'expédition ratera et qu'on n'ouvrira pas le coffre. »«
C'est possible, mon vieux. »«
Mais alors il faudra me payer mon dérangement. »«
Je ne suis pas venu ici pour voir la tête que tu fais dans un fauteuil. »
Les diamants, puisque diamants il y a, sinon l'enveloppe de Maroquin. Le dilemme est posé.
Il consulta sa montre.
Une demi-heure, bigre, le destin se fait tirer l'oreille.
Mais ne rigole donc pas, monsieur Kesselbach. Foi d'honnête homme, je ne rentrerai pas bredouille.
Enfin ! C'était la sonnerie du téléphone.
Lupin s'empara vivement du récepteur et, changeant le timbre de sa voix, imitant les intonations rudes de son prisonnier.
« Oui, c'est moi, Rudolf Kesselbach. »«
Ah, bien, mademoiselle, mettez-moi en communication. »«
C'est toi, Marco. Parfait, ça s'est bien passé ?»
À la bonne heure.
Pas d'accro ?
Compliment, mon enfant.
Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé ? La cassette d'ébène ?
Pas autre chose ?
Aucun papier ?
Tiens, tiens, et dans la cassette ?
Sont-ils beaux, ces diamants ?
Parfait, parfait. Une minute, Marco, que je réfléchisse.
Tout ça, vois-tu, si je te disais mon opinion.
Tiens, ne bouge pas, reste à l'appareil.
Il se retourna.
Monsieur Kesselbach, tu y tiens, tes diamants ?
Oui.
Tu me les rachèterais ?
Peut-être.
Combien ? 500 000 ?
500 000, oui.
Seulement, voilà le hic. Comment se fera l'échange ?
Un chèque ? Non, tu me roulerais ou bien je te roulerais.
Écoute, après-demain matin, passe au Lyonnais. Prends tes 500 billets et va te promener au bois près d'Auteuil. Moi, j'aurai les diamants dans un sac, c'est plus commode, la cassette se voit trop.
Non, non, la cassette, je veux tout.
Ah, fit Lupin, éclatant de rire, tu es tombé dans le panneau.
Les diamants, tu t'en fiches, ça se remplace. mais la cassette, tu y tiens comme à ta peau. »
Eh bien, tu l'auras ta cassette, foi d'Arsène, tu l'auras, demain matin par colis postal. »
Il reprit le téléphone.
« Marco, tu as la boîte sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?»«
De l'ébène incrustée d'ivoire. Oui, je connais ça. Style japonais, Faubourg Saint-Antoine.
Pas de marque ?»«
Ah, une petite étiquette ronde bordée de bleu. Et portant un numéro. »
Oui, une indication commerciale, aucune importance.
Et le dessous de la boîte, est-il épais?
Bigre, pas de double fond alors.
Dis donc, Marco, examine les incrustations d'ivoire sur le dessus. Ou plutôt non, le couvercle.
Il exulta de joie.
Le couvercle, c'est ça, Marco. Kesselbach a cligné de l'œil. « Nous brûlons. Ah, mon vieux Kesselbach, tu ne voyais donc pas que je te guignais ?
Fichu maladroit, va. »
Et revenant à Marco.
« Eh bien, où en es-tu ? » ?»«
Une glace à l'intérieur du couvercle. »«
Est-ce qu'elle glisse ? » ?»«
Y a-t-il des rainures ? » ?»«
Non, eh bien, casse-la. » »«
Mais oui, je te dis de la casser. »
Cette glace n'a aucune raison d'être, elle a été rajoutée.
Il s'impatienta.
Mais imbécile, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, obéis.
Il dut entendre le bruit que Marco faisait au bout du fil pour briser le miroir, car il s'écria triomphalement.
Qu'est-ce que je te disais, monsieur Kesselbach, que la chasse serait bonne?
« Allô, ça y est ?
Eh bien,
une lettre, victoire, tous les diamants du Cap et le secret du bonhomme. »
Il décrocha le second récepteur, appliqua soigneusement les deux plaques sur ses oreilles et reprit.
« Lis, Marco, lis doucement, l'enveloppe d'abord. Bon, maintenant répète. »
Lui-même répéta. Copie de la lettre contenue dans la pochette de maroquin noir.
Et après, déchire l'enveloppe, Marco.
Vous permettez, hein, monsieur Kesselbach? Ce n'est pas très correct, mais enfin.
Vas-y, Marco, monsieur Kesselbach t'y autorise. Ça y est? Eh bien, lis.
Il écouta, puis ricanant.
Fichtre, ce n'est pas aveuglant.
« Voyons, je résume. Une simple feuille de papier pliée en quatre et dont les plis paraissent tout neufs. Bien, en haut et à droite de cette feuille, ces mots. 1,75 m, petit doigt gauche coupé, etc.
C'est ça, oui, le signalement du sieur Pierre-le-Duc.
De l'écriture de Kesselbach, n'est-ce pas?
Bien. »
Et au milieu de la feuille, ce mot en lettres capitales d'imprimerie, APON, APON.
Marco, mon petit, tu vas laisser le papier tranquille. Tu ne toucheras pas à la cassette ni au diamant. Dans 10 minutes, j'en aurai fini ici avec mon bonhomme. Dans 20 minutes, je te rejoins. Et à propos, tu m'as envoyé l'auto?
Oui, parfait. À tout à l'heure.
Il remit l'appareil en place, passa dans le vestibule, puis dans la chambre, s'assura que le secrétaire et le domestique n'avaient pas desserré leurs liens et que d'autre part ils ne risquaient pas d'être étouffés par leur bâillon. Et il revint vers son prisonnier. Il avait une expression résolue, implacable.
Fini de rire, Kesselbach. Si tu ne parles pas, tant pis pour toi.
Es-tu décidé?
À quoi?
Pas de bêtises, dis ce que tu sais.
Je ne sais rien.
Tu mens, que signifie ce mot apon?
Si je le savais, je ne l'aurais pas inscrit.
Soit, mais à qui, à quoi se rapporte-t-il? Où l'as-tu copié? D'où cela te vient-il?
Monsieur Kesselbach ne répondit pas.
Lupin reprit, plus nerveux, plus saccadé.
Écoute, Kesselbach, je vais te faire une proposition. Si riche, si gros monsieur que tu sois, il n'y a pas entre toi et moi tant de différence. Le fils du chaudronnier d'Augsbourg et Arsène Lupin, prince des cambrioleurs, peuvent s'accorder, sans honte ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je vole en appartement, toi, tu voles en bourse. Tout ça, c'est kiff-kiff. Donc voilà, Kesselbach, associons-nous pour cette affaire. J'ai besoin de toi, puisque je l'ignore. Tu as besoin de moi, parce que tout seul, tu n'en sortiras pas. Barbareux est un niais, moi, je suis Lupin. Ça colle ?
Un silence. Lupin insista d'une voix qui tremblait.
« Réponds, Kesselbach, ça colle ?»«
Si oui, en 48 heures, je te le retrouve, ton Pierre le Duc. »«
Car il s'agit bien de lui, hein ?»«
C'est ça l'affaire. »«
Mais réponds donc, qu'est-ce que c'est cet individu ? Pourquoi le cherches-tu ? Que sais-tu de lui ? Je veux savoir. »
Il se calma subitement, posa sa main sur l'épaule de l'Allemand et d'un ton sec.
« Un mot seulement, oui ou non ?»«
Non. »
Il tira du gousset de Kesselbach un magnifique chronomètre en or et le plaça sur les genoux du prisonnier. Il déboutonna le gilet de Kesselbach, écarta la chemise, découvrit la poitrine et, saisissant un stylet d'acier à manche niellée d'or qui se trouvait près de lui sur la table, il en appliqua la pointe à l'endroit où les battements du cœur faisaient palpiter la chair nue.
« Une dernière fois. »«
Non. »«
Monsieur Kesselbach, il est 3h-8. Si dans 8 minutes vous n'avez pas répondu, vous êtes mort. »
Le lendemain matin, à l'heure exacte qui lui avait été fixée, le brigadier Gourel se présenta au Palace Hôtel. Sans s'arrêter, dédaigneux de l'ascenseur, il monta les escaliers. Au 4e étage, il tourna à droite, suivit le couloir et vint sonner à la porte du 415. Aucun bruit ne se faisant entendre, il recommença. Après une demi-douzaine de tentatives infructueuses, il se dirigea vers le bureau de l'étage. Un maître d'hôtel s'y trouvait.
« Monsieur Kesselbach, s'il vous plaît, voilà 10 fois que je sonne. »«
Monsieur Kesselbach n'a pas couché là. Nous ne l'avons pas vu depuis hier après-midi. »«
Mais son domestique, son secrétaire,
nous ne les avons pas vus non plus. »«
Alors, eux non plus n'auraient pas couché à l'hôtel ?»
Sans doute.
Sans doute, mais vous devriez avoir une certitude.
Pourquoi ? Monsieur Kesselbach n'est pas à l'hôtel ici, il est chez lui, dans son appartement particulier. Son service n'est pas fait par nous, mais par son domestique. Et nous ne savons rien de ce qui se passe chez lui.
En effet.
Gourel semblait fort embarrassé. Il était venu avec des ordres formels, une mission précise dans les limites de laquelle son intelligence pouvait s'exercer. En dehors de ces limites, il ne savait trop comment agir.
« Si le chef était là, murmura-t-il, si le chef était là... »
Il montra sa carte et déclina ses titres. Puis il demanda à tout hasard.
« Donc, vous ne les avez pas vus rentrer ?»«
Non. »«
Mais vous les avez vus sortir ?»«
Non plus. »«
En ce cas, comment savez-vous qu'ils sont sortis ?»«
Par un monsieur qui est venu hier après-midi au 415. »«
Un monsieur à moustache brune ?»«
Oui, je l'ai rencontré comme il s'en allait, vers 3 heures. Il m'a dit « Les personnes du 415 viennent de sortir. Monsieur Kesselbach couchera ce soir à Versailles, au réservoir, où vous pouvez lui envoyer son courrier. » Mais qui était ce monsieur? À quel titre parlait-il?
Je l'ignore.
Gourel était inquiet. Tout cela lui paraissait assez bizarre.
Vous avez la clé?
Non, monsieur Kesselbach avait fait faire des clés spéciales.
Allons voir.
Gourel sonna de nouveau furieusement.
Rien.
Il se disposait à partir quand soudain il se baissa et appliqua vivement son oreille contre le trou de la serrure.
Écoutez, on dirait, mais oui, c'est très net. Des plaintes, des gémissements.
Il donna dans la porte un véritable coup de poing.
Monsieur, vous n'avez pas le droit.
Je n'ai pas le droit. Il frappait à coups redoublés, mais si vainement qu'il y renonça aussitôt.
Vite, vite, un serrurier.
Un des garçons d'hôtel s'éloigna en courant. Gourel allait de droite et de gauche, bruyant et indécis. Les domestiques des autres étages formaient des groupes. Les gens du bureau, de la direction, arrivaient. Gourel s'écria.
« Mais pourquoi n'entre-t-on pas par les chambres contiguës? Elles communiquent avec l'appartement ?»«
Oui, mais les portes de communication sont toujours verrouillées des deux côtés. »
Alors je téléphone à la sûreté, dit Gourel, pour qui visiblement il n'existait point de salut en dehors de son chef.
Et au commissariat, observa-t-on.
Oui, si ça vous plaît, répondit-il du ton d'un monsieur que cette formalité intéresse peu.
Quand il revint du téléphone, le serrurier achevait d'essayer ses clés. La dernière fit jouer la serrure. Gourel entra vivement. Aussitôt, il courut à l'endroit d'où venaient les plaintes et se heurta aux deux corps du secrétaire Chapman et du domestique Edwards. L'un d'eux, Chapman, à force de patience, avait réussi à détendre un peu son bâillon et poussait de petits grognements sourds. L'autre semblait dormir. On les délivra. Gourel s'inquiétait.
Et M. Kesselbach?
Il passa dans le salon. M. Kesselbach était assis, attaché au dossier du fauteuil près de la table. Sa tête était inclinée sur sa poitrine.
« Il est évanoui, » dit Gourel en s'approchant de lui. « Il a dû faire des efforts qui l'ont exténué. »
Rapidement, il coupa les cordes qui liaient les épaules. D'un bloc, le buste s'écroula en avant. Gourel l'empoigna à bras le corps et recula en poussant un cri d'effroi.
« Mais il est mort! Tâté! Les mains sont glacées! Regardez les yeux !»
Quelqu'un hasarda. « Une congestion sans doute, ou une rupture d'anévrisme ?»
En effet, il n'y a pas trace de blessure. C'est une mort naturelle.
On étendit le cadavre sur le canapé et l'on défit ses vêtements. Mais tout de suite, sur la chemise blanche, des taches rouges apparurent et dès qu'on l'eut écartée, on s'aperçut qu'à l'endroit du cœur, la poitrine était trouée d'une petite fente par où coulait un mince filet de sang. Et sur la chemise était épinglée une carte. Gourel se pencha. C'était la carte d'Arsène Lupin, toute sanglante elle aussi. Alors Gourel se redressa, autoritaire et brusque.
« Un crime ! Arsène Lupin, sortez ! Sortez tous ! Que personne ne reste dans ce salon ni dans la chambre ! Qu'on transporte ces messieurs, qu'on les soigne dans une autre pièce ! Sortez tous ! Qu'on ne touche à rien surtout ! Le chef va venir !»